C'est avec une grande admiration que Paul Nogier nous parle de Samuel Hahnemann au cours d'un séminaire en 1977. Il retrouve de nombreux liens entre l'expérimentation en homéopathie et en auriculomédecine et nous fait part de ses constatations. La première partie de l'exposé est consacrée à l'examen du patient en auriculomédecine où on distingue deux tendances, l'une plus globale, l'autre plus séquentielle, rappelant les méthodes unicistes et ou pluricistes des homéopathes.
Si vous traitez un malade, même une reposition vertébrale, qui est souvent nécessaire, ou une remise en place d'une première cause, qui est encore plus nécessaire, on en voit des quantités, eh bien, avant de faire cela, donnez-vous la peine d'examiner votre malade. Naturellement, à l'examen classique, mais en auriculomédecine, il y a des examens particuliers. Or, il y a dans ces examens particuliers des examens rapides. Il ne faut pas oublier que nous ne pouvons pas consacrer un temps indéfini à chaque malade et donc ce temps est limité. Et dans la mesure où nous pouvons avoir des examens qui sont sûrs et des examens qui sont rapides, cela vaut mieux. Eh bien, vous avez dans l'examen du malade, vous avez deux étapes qu'il faut bien diviser, et c'est cette première étape que je vais vous traiter ce matin. C'est la plus facile. L'autre, elle ne s'apprend qu'au cours du travail journalier avec une grosse culture de la méthode. La première étape correspond à l'examen des systèmes que je qualifierais de plus ou moins physiologiques. Il y a des troubles qui ne sont pas des troubles organiques, qui sont des troubles fonctionnels, mais ces troubles doivent être connus car ils amènent, ils se dirigent vers le trouble organique. Eh bien, ces troubles dits fonctionnels peuvent être assez facilement mis en évidence. Et il me semble que c'est cette première étape qui est absolument décisive pour l'orientation du travail que vous allez avoir par ailleurs. Pourquoi ? Parce que, d'abord, premièrement, vous allez avoir des symptômes qui vont vous orienter vers tel ou tel diagnostic, comme vous allez le voir tout à l'heure, amenant une correction pour réguler ces troubles fonctionnels de manière à ce que le malade puisse se présenter à vous comme quelqu'un d'homogène, de normaliser en ce qui concerne certaines grandes fonctions, et que d'autre part, une fois que tout cela sera normalisé, il vous sera beaucoup plus commode d'examiner votre patient sous l'angle pathologique. Cet examen primitif peut avoir deux directions, je ne m'illusionne pas. Et déjà, parmi les confrères qui sont ici, qui connaissent la méthode, il y a deux tendances. Et les deux tendances sont valables. Et je ne me permettrai pas de vous faire choisir l'une plutôt que l'autre. Elles ne s'opposent pas, elles se complètent, quelque part. La première consiste à ne rien faire. Lorsque vous trouvez un symptôme au début, même fonctionnel, et aller jusqu'au bout dans l'investigation et dans l'inventaire. Cet inventaire vous donne une figure complète, complexe, et va vous servir de point de départ à un raisonnement que je ne traiterai pas aujourd'hui et qui sera l'objet d'autres séances. Vous amorcez donc là la prise de contact avec un malade et vous amorcez aussi un mécanisme intellectuel qui va vous amener à la recherche et à l'identification de la cause. Et vous avez parmi les confrères qui sont déjà très distingués dans la méthode, vous avez des Ulyssistes qui cherchent la cause. Cette cause, une fois qu'elle est mise en évidence, par ce que j'appelle un trafic d'informations, on vous expliquera ce que cela veut dire, par des méthodes qui sont toutes à base du réflexe du coup, vous permet donc de mettre en évidence une origine, une étiologie, une pathogénie, et de corriger une seule chose. Si vous avez un visage symptomatique très divers, il vous est facile après de reprendre les différents tests que vous avez faits pour savoir si ces tests ont varié et si tout s'est unifié. Et ces unicistes, si je peux dire, par des collègues, estiment que l'unification totale, la rectification de tous les symptômes est nécessaire pour qu'on puisse être sûr qu'on a vraiment touché la cause. Eh bien, une semblable technique sera développée dans la revue. La thérapeutique à ce moment-là n'est pas obligatoirement une thérapeutique auriculaire, elle peut être n'importe quelle thérapeutique. Elle peut être une manipulation, elle peut être de l'acupuncture générale, elle peut être l'emploi de remèdes classiques, elle peut être l'emploi d'un remède homéopathique, elle peut être n'importe quoi. Mais nous avons à la base un canevas, une image, une figure qui est celle de notre malade vu physiologiquement, puisque par le coup nous pouvons connaître toute l'équilibre de ses fonctions. Voilà donc l'idéal. Cet idéal demande du temps, il demande des compétences, il demande une véritable formation de celui qui va examiner le coup. Et je pense que si c'est un idéal, il n'est quelquefois pas toujours accessible, surtout dans un premier temps. Il est donc nécessaire d'avoir une technique de rechange, mais une technique qui soit cohérente. Et voici la seconde technique. La seconde technique consiste aussi à avoir une image du patient, et cette image, elle est plus simplifiée. On en a pris les grandes directions et à toute anomalie, on a fait correspondre, chemin faisant, une thérapeutique adéquate. À ce moment-là, en quelques minutes, on a rectifié les grosses anomalies, qui sont des anomalies souvent fonctionnelles, et nous pouvons étudier le malade toujours avec un dénominateur commun, les uns vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que la base semble la même. Et l'idéal serait d'arriver à tel état que M. Dupont soit exactement les mêmes réactions que M. Durand. En réalité, c'est difficile. Et je ne défends pas totalement le principe de cet examen, mais il est pratique. Tombèrent malades et il connaissait pas mal la question médicale, mais il ne put résoudre facilement. Voici ce que dit Simon. Cependant, de graves maladies attaquèrent ses enfants. Alors, ses doutes, ses scrupules furent à leur comble. Je vous ai dit qu'il venait d'arrêter justement la suite de la médecine parce qu'il avait l'impression que la médecine ne donnait pas satisfaction complètement à ses désirs profonds et son idéal. Le père tremblait pour la vie des siens, le médecin n'avait aucune confiance dans les ressources de l'art, quelle cruelle incertitude. Serait-il donc possible, se disait Hahnemann, que la Providence ait abandonné l'homme, sa créature, sans secours certain contre la multitude d'infirmités qui la siègent incessamment. Il se posa cette question dans un moment bien solennel, dans le moment où la tendresse du Père veille avec anxiété et prie avec ferveur, où toute prière est écoutée et où toute demande est répondue. Et alors il s'écria, non, il y a un Dieu qui est la bonté, la sagesse même, il doit y avoir aussi un moyen créé par lui de guérir les maladies avec certitude. Cet élan de son âme lui fut comme une révélation, il se mit à la recherche, convaincu qu'il trouverait, et telle est l'origine de l'homme hébreu. L'idée qu'il devait exister un moyen de guérir les maladies avec certitude n'abandonna plus Hahnemann. Et désormais, tout ce qui lui restera d'existence sera consacré à la solution de ce vaste et utile problème. Pourquoi se disait-il ? Ce moyen n'a-t-il pas été trouvé depuis 20 siècles qu'il existe des hommes qui disent médecins ? C'est parce qu'il était trop près de nous et trop facile. Parce qu'il ne fallait pour y arriver ni brillant sophisme, ni séduisante hypothèse. Bien, je chercherai tout près de moi. Il doit être ce moyen auquel personne n'a songé parce qu'il était trop simple. Voici, ajoute-t-il, de quelle manière je m'engagerai dans cette voie nouvelle ? Tu dois, pensais-je, observer la manière dont les médicaments agissent sur le corps de l'homme lorsqu'il se trouve dans l'assiette tranquille de la santé. Les changements qui déterminent alors n'ont pas lieu en vain et doivent certainement signifier quelque chose, car sans cela, pourquoi s'opérerait-il ? Peut-être est-ce là la seule langue dans laquelle ils puissent exprimer à l'observateur le but de leur existence. Cette pensée à la fois simple et profonde germait dans la tête d'Hahnemann lorsqu'un jour, traduisant la matière médicale de Cullen, à l'endroit du quinquina, il fut frappé des hypothèses multipliées et contradictoires par lesquelles on avait tenté d'expliquer son action. Ce tableau aussi fastidieux qu'incohérent d'explications qui n'expliquaient rien, devait éveiller son attention. Il résolut de chercher par lui-même et sur lui-même les propriétés d'un agent aussi précieux pour la guérison d'un grand nombre de maladies. À cet effet, il prit pendant plusieurs jours de fortes doses de quinquina et bientôt il ressentit les symptômes d'un état fébrile intermittent analogue à celui que le quinquina guérit. La même expérience, répétée à plusieurs reprises sur lui et sur quelques personnes dévouées, ne lui permit plus de douter que, si le quinquina guérit certaines fièvres intermittentes, c'est qu'il peut développer sur l'homme sain des troubles artificiels entièrement semblables à ceux dont il triomphe. Mais était-ce là un fait isolé dont les conclusions ne s'étendaient pas au-delà du fait lui-même ? Ou bien en serait-il des autres médicaments comme du quinquina ? Arrivé à ce point, aucun homme ne resterait sous le poids de l'incertitude aussi. Hahnemann expérimenta-t-il successivement le mercure, la belladone, la digitale, la coagulant ? Et partout, il obtint une seule et même réponse. Vous avez là vraiment la première, la base même, le principe de sa découverte. Il a découvert, en somme, un principe nouveau. Et si l'on veut bien voir cela de près, eh bien, c'est extraordinaire au fond, parce qu'il y a là une très grande logique, il y a quelque chose de très extraordinaire dans cette découverte. Mais cette découverte, et ce serait vraiment ne pas respecter cette découverte. Hahnemann l'a repris, l'a pensé, l'a trituré, s'est plongé sur ce travail et il en a sorti toute une doctrine. Et je pense quand même qu'il est nécessaire, quoique cette doctrine puisse être controversée, il est nécessaire qu'on en comprenne un peu le fond. Esthétiquement, par exemple, à cet endroit, une première lecture de l'organon, et je vous conseille quand même, c'est une lecture qu'il faut avoir faite, même si certaines parties de l'ouvrage a vieilli, mais il y a des problèmes de fond que l'on retrouve, et je suis très frappé, je vous montrerai tout à l'heure, qu'on retrouve dans les méthodes d'Hahnemann des méthodes expérimentales que nous employons encore à notre vaincu, par exemple en orthopédie. Le fait d'employer des petites recherches d'intoxication médicamenteuse, nous employons en orthopédie aussi des informations très faibles de médicaments pour connaître l'effet de tel ou tel test. C'est très intéressant et je pense que même auprès du culture général, il faut le savoir. Une première lecture de l'organon permettra de saisir l'esprit et la tendance de la doctrine homéopathique. Ils verront s'adresse au lecteur, qu'elle offre le tout caractère d'une séparation complète, radicale, avec le passé de la science ou le rapport théorique. Et c'est la partie critique. Et celui d'un dogmatisme absolu dans l'exposition de ses propres principes. Hahnemann a toujours été très absolu, c'était un homme très absolu, et en ceci, il se rapproche aussi de Pasteur. Il se rapproche de Pasteur dans sa recherche sur la chimie, il se rapproche de Pasteur dans son absolutisme. Pasteur, n'oubliez pas, a fait une hémiplégie lorsqu'on l'a contrarié à l'Académie de médecine, à l'Académie des sciences. Et Hahnemann, lui, en était malade de voir les critiques qui se posaient à propos de sa doctrine, la doctrine qu'il estimait absolue, qu'il estimait absolument parfaite. Il a eu des mots relativement durs pour la visite de son temple. Et je crois que c'est cette dureté, je crois que c'est ce caractère absolu, qui a provoqué chez Pasteur des ennuis de santé et chez Hahnemann des ennuis de diffusion de la doctrine. Car évidemment, on a mal accepté dans cet entourage médical quelqu'un qui vient tout bousculer et qui s'impose d'une manière aussi énergique. Alors, je passe sur la manière dont il a repoussé, justement, comme dit Simon, l'orgueilleuse prétention sur ses devanciers de vouloir pénétrer l'essence des vies des maladies. Il y a des mots relativement durs d'Allemagne. Et Hahnemann fut très absolu dans ses principes. Et dit Simon, c'est là encore ce qui caractérise sa doctrine. Et il discute, faut-il l'enflammer ou autre. Plus loin, il conseille, donc l'homme qui a fait la préface, le docteur Simon, conseille au lecteur, s'il veut pénétrer plus avant dans la connaissance de l'homéopathie, le lecteur dont je parle s'enquerra de la doctrine elle-même. Et alors il ne tardera pas à s'apercevoir qu'elle repose sur une conception physiologique, qu'elle a une loi thérapeutique, un système pathologique et une matière médicale. Et c'est un principe qui se développe chez Hahnemann. Plus loin, reprenant les idées d'Hahnemann, Simon dit que pour Hahnemann, la vie humaine est un fait. Et ce fait peut être compris ou comme une cause des phénomènes qui se succèdent d'une façon si merveilleuse dans notre organisation, ou elle peut être conçue comme un effet du jeu des organes. En d'autres termes, pour le physiologiste comme pour le métaphysicien, il n'est pas de milieu entre le spiritualisme et le matérialisme. Tout homme dont l'esprit est assez vaste pour ne pas s'arrêter à moitié chemin d'un problème se trouve forcément conduit jusqu'à cette redoutable question. Loin de reculer devant les difficultés qui l'obscurcissent, il s'y attache obstinément jusqu'à ce qu'il en ait fait jaillir la lumière. C'est pourquoi, malgré leur dédain pour les questions philosophiques, il n'est pas un médecin ayant laissé quelques traces de son nom dans la science qui n'est incliné ouvertement vers l'une ou l'autre des solutions indiquées. Brown, Razori, Broussel le savaient bien. Aussi n'hésitèrent-ils pas à se prononcer. Je ne sais même si leur éducation philosophique ne fut pas pour beaucoup dans leurs différents systèmes, et si ces trois filles siècle ne pourrait renvoyer à leur père la responsabilité des doctrines qu'ils préconisèrent. Barthès et l'école de Montpellier connaissaient aussi l'importance d'une semblable question, ils la résolurent en sens opposé, mais ils ne l'atteignent pas dans l'ombre. De profonds mystères, il faut en convenir, couvrent l'une et l'autre de ces solutions, mais selon celle à laquelle on s'arrête, tout change de face. Le matérialisme médical, ne voyant que des organes qui fonctionnent, place en eux l'origine et le point de départ de la maladie. S'il utilise l'action des agents de guérison, il ne s'occupe que des modifications organiques qu'ils produisent, et lorsqu'il arrive à tracer ses applications thérapeutiques, il les emprunte à ses deux sources. Peu lui importe si un sujet atteint de ce qu'il nomme une inflammation est ou n'est pas débilité par la maladie et les traitements antérieurs, tant que les organes malades sont frappés de congestion, ils s'acharnent après eux, les dégorgent et les désemplit sans fin et sans relâche jusqu'au moment où l'équilibre se rétablit et jusqu'à l'instant où une prostration évidente l'oblige à s'arrêter et le laisse en face du danger sans autre ressource que son impuissance. Et il est nécessaire encore que vous connaissiez un petit passage sur la doctrine d'Anna, car il était vitaliste. Et malgré tout, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir, c'est quand même intéressant de la connaître. L'organisme matériel, dit Diana, supposé sans force vitale, ne peut ni sentir, ni agir, ni rien faire pour sa propre conservation. C'est à l'être immatériel seul qui l'anime dans l'état de santé et de maladie, qu'il doit le sentiment et l'accomplissement de ses fonctions vitales. Il le met dans un extrait de l'organe. De fait, ressort de cette citation, pour Hahnemann, l'organisme sans force vitale est inerte. La vie lui est communiquée par une force sui generis qu'il nomme la force vitale. Cette force est un être, et cet être est immatériel. Voilà toute sa pensée, voilà tout son système. Mieux on le comprend, plus on est maître de sa doctrine, et mieux on l'applique. Hahnemann dit la force vitale, et non les forces vitales. Cette force est unique. Et c'est pourquoi la multiplicité de nos actions organiques se développe dans une harmonie si merveilleuse qu'elle a frappé d'admiration les plus grands esprits et du beau génie. En cela, il échappe aux erreurs de Van Helmont, qui sortit de l'école de Paracelse, inclinait manifestement vers le matérialisme moderne et compliquait l'action du sonarcher de celle d'une coupe de ferment qui rompait l'unité du système. Il échappe également à l'erreur de Stahl, qui fait honneur à l'âme raisonnable de tous les phénomènes qu'accomplissent les êtres vivants. La force vitale d'Anna réside à toutes nos fonctions et nous donne le sentiment de l'accomplissement. Une, je le répète, elle est spécifique, on ne saurait donc la confondre avec la force psychologique d'où relèvent les faits d'un autre ordre, les faits intellectuels ou moraux. Cette force est un être ou un âme, et ne peut en effet la concevoir autrement. Comme force est un pouvoir, c'est elle que procède des actions vitales, elle a donc puissance de les engendrer, de les entretenir et de veiller à la conservation de l'ensemble. Sa permanence au milieu des métamorphoses que subit l'organisme implique son existence essentielle, car c'est là précisément le trait distinctif entre l'être et le phénomène. Le phénomène est passager, variable, toujours différent. L'être est permanent, toujours semblable à lui-même, et ne cesse d'agir en un seul instant, sans cesser d'exister. La force vitale est permanente jusqu'au moment où la mort nous frappe. Elle ne varie pas dans les caractères qui lui sont spécifiques. Elle est donc un être. Oui, j'ai voulu vous donner quelques aperçus de cette vision tout à fait particulière qu'a Hahnemann sur la médecine. Et je dois dire que lorsqu'il émet ses idées, il nous trouble beaucoup quand on voit à l'heure actuelle un développement aussi considérable de toute la métapsychique. On a l'impression que dans le monde moderne, ce partage de tendances qui, à côté d'un matérialisme tout à fait obscur, se trouve un, je ne dis pas un spiritualisme, mais des hypothèses tout à fait extraordinaires et que l'on trouve du côté de la métapsychique. Donc, il était intéressant de savoir qu'Hahnemann avait des idées très avancées sur son époque, sur certains problèmes. D'autre part, les travaux, maintenant, que nous faisons en auriculomédecine, ont un intérêt parce qu'il y a quelques liens avec la doctrine allemandière. Liens dans le principe même de cette expérimentation sur l'être humain. Hahnemann, à mon avis, a été le premier qui a fait systématiquement une expérimentation sur l'être humain. Il l'a fait avec des doses qui étaient des doses faibles de remèdes, et il a essayé de voir ce qui se développait chez l'être en expérience, quels étaient les symptômes qui se manifestaient, il les a notés d'une manière extrêmement précise.
les doses qu'il a employées aussi étaient en général des doses faibles, des doses qui ne provoquaient pas, et de loin, l'intoxication du malade et surtout sa maladie et sa mort. Et bien le régimomédecine reprend, si je peux dire, ce flambeau expérimental quand nous essayons par des mécanismes encore plus subtils d'étudier les médicaments et les substances. Nous les étudions par l'action qu'elles ont lorsque la lumière les traverse et vient frapper le derme. Nous avons à ce moment-là, au niveau du pouls, des informations qui peuvent être notées et qui peuvent être conjuguées avec d'autres observations permettant d'avoir pour chaque substance une véritable figure et une véritable notion de l'action de cette substance sur le corps humain. Les symptômes que cherchait à observer Hahnemann étaient des symptômes subjectifs, c'est-à-dire que nous n'arrivions jamais, par l'expérimentation homéopathique ou de remède, et par principe, on n'arrivait jamais à des lésions. Eh bien, il y avait un inconvénient à cette expérimentation, et cet inconvénient existe encore. Il fallait se fier à la bonne observation du sujet en expérience. Et tous les symptômes étaient à ce moment-là subjectifs. En auriculomédecine, nous avons aussi un inconvénient, pour l'instant, en attendant que cet inconvénient n'existe plus. C'est la prise du pouls. La prise du pouls est subjective, mais elle est subjective pour un seul personnage, c'est le médecin. Et le médecin peut s'entraîner, peut parfaire sa fiabilité et permettre ainsi un examen qui a une certaine valeur, en tout cas une plus grande valeur et moins de subjectivité que celle qui se produit chez un malade ou chez un sujet sain sur lequel on essaye des médicaments et qui lui-même n'est pas connu ni dans son langage ni dans son caractère scientifique et qui lui n'a pas subi un entraînement particulier, au moins pour la plupart des sujets en expérience. Et c'est du reste pour cette raison qu'au début du temps d'Allemagne et après, les médecins s'étaient portés volontaires, étant eux-mêmes les meilleurs observateurs, les médecins s'étaient portés volontaires pour faire des expérimentations sur eux-mêmes et connaître les symptômes qui, tous ensemble, forment ce que l'on appelle la matière médicale, c'est-à-dire l'ensemble des symptômes provoqués par les médicaments sur les êtres sains. Chez l'être, en auriculomédecine, nous avons donc cette subjectivité du médecin, mais des expériences, et la prochaine revue que vous allez lire, l'auriculomédecine numéro 8, va vous permettre de voir que l'on peut tourner cette subjectivité en faisant des expériences à l'aveugle. Et que ça devient très intéressant, car l'expérience à l'aveugle a la même valeur, au bout d'un certain temps, qu'une expérience qui est faite objectivement. Vous trouverez donc ça dans le prochain numéro qui va paraître d'ici 3-4 semaines. À ce sujet, je me permets, puisque vous êtes tous réunis, de me frapper la poitrine et de dédouaner mon éditeur. Il y a des retards dans cette revue, et ces retards ne sont pas dus à l'éditeur qui, chaque fois, me rappelle aimablement, ainsi que toute son équipe, que je dois être à l'heure, et je ne suis pas à l'heure. Et si cette revue est en retard, n'écrivez pas, c'est pas la peine, c'est moi qui la mets en retard. Je la mets en retard parce que je suis seul à la faire, ou presque seul. Eh bien, maintenant, dorénavant, elle aura beaucoup moins de retard, parce que j'ai tout organisé ma vie d'une manière différente, et que je vais pouvoir m'y consacrer un peu plus, d'une part, et d'autre part, j'espère avoir parmi vous des collaborateurs qui vont me soulager dans certaines de ces parties de cette revue, et donc vous aurez une revue cette année qui va prendre son temps normal de parution. L'auriculomédecine, donc, se rapproche, mais dans sa doctrine, je ne prends absolument pas la doctrine d'Hahnemann, cette doctrine italiste, c'est une doctrine qu'il faudrait creuser, moi je n'ai pas du tout ni le lieu, ni ni le sujet de mon exposé. Je voudrais simplement attirer l'attention sur le fait que l'auriculomédecine nous permet de creuser les problèmes les plus subtils de la neurophysiologie et de plus en plus, je suis étonné de voir combien Hahnemann était en avance sur son époque. En avance sur son époque parce que il avait compris que seule l'expérimentation du système nerveux pouvait être féconde, c'est ce que nous faisons en auriculomédecine d'une manière complète, une bonne expérimentation. Et quand il parle d'une action d'une force vitale, il dit je ne peux pas endosser cette hypothèse, mais il est nécessaire quand même de comprendre combien de maladies peuvent avoir un point de départ nerveux du système nerveux central, et dans le système nerveux central, pour nous, êtres humains, au niveau du cortex qui fait notre individualité d'être humain. Ce cortex répresseur, dont on n'a pas encore fini de tout dire, et de loin, qui joue un rôle absolument considérable, d'une part, dans notre formation d'homme, dans notre éducation, dans notre perfectionnement, dans notre génie créateur, eh bien, ce cortex a aussi, et malheureusement, un autre versant, une autre côté de la médaille, qui est le côté qui est à la base de beaucoup d'affections de maladie. Le désordre qui se produit au niveau du cortex, les désordres endogènes, si je peux dire, qui sont transmis par la génétique, on va vous en parler ce soir, mais les désordres qui sont exogènes, c'est-à-dire ceux qui sont produits par la civilisation, l'environnement, les contraintes, les refoulements, le fait de ne pas accepter telle ou telle situation, vont provoquer une modification considérable au niveau de tous les transmetteurs, et du moins notre avis, et je pense que peu à peu, nous allons trouver cette expression justement au niveau des magnifiques exposés de notre, du professeur Henri. Eh bien, le cortex semble neutralisé par toutes ces aires suppressives, semble neutralisé soit d'une manière générale, soit d'une manière particulière, certaines transmissions, et créer à cause de cela des isolements périphériques, organiques, viscéraux, fonctionnels, qui sont l'amorce d'un affaiblissement vital, et on voit arriver une espèce de force vitale qui s'éteint ou qui s'affaiblit, à partir de laquelle les maladies vont se développer. Et nous allons passer du choc émotif à la maladie fonctionnelle, puis ensuite au trouble organique. Et vous le savez bien, dans votre clientèle, combien, si vous vous penchez sur les cas de malades, vous allez être frappé de voir le nombre de maladies, le nombre de troubles qui sont, dont l'origine est une origine centrale, est une origine corticale. Et voyez-vous, je pense qu'il était bon, ce matin, à propos du principe homéopathique et à propos de l'hommage que je rends à un de nos confrères, car c'est un confrère, et nous sommes européens, c'est un confrère de l'Europe, Samuel Hahnemann, qui a fait un travail considérable pour essayer d'apurer la folie thérapeutique de son temps, qui n'est pas sorti peut-être, et qui n'a pas pu sortir quand même d'une thérapeutique, mais qui a quand même essayé par sa réflexion d'amener le médecin à une certaine pensée, à une certaine doctrine. Eh bien, monsieur, à tout de suite.